sur Vert FM, connecté à votre région.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Antoine Chevrier pour la Maison du Vin à Nevers. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Alors, vous représentez la Maison du Vin qui est basée donc avenue Colbert à Nevers.
Exactement, 45.
45 avenue Colbert. Je vais vous demander, comme à tous nos invités, de bien vouloir présenter votre structure.
La Maison du Vin, c'est avant tout une cave, donc une cave à vin, mais pas que, parce qu'on a aussi une partie, privative, où on fait des salles de dégustation et un nouvel espace de vente et de réunion, où on fait des dégustations à la Maison du Vin.
D'accord, donc des dégustations. Alors, il est bien évident, vous l'aurez compris, chers auditeurs, que ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de vin, donc à consommer avec modération. Et je précise que l'abus d'alcool est dangereux. Mais donc, plus précisément, vous avez une activité donc de vente et de conseil, de caviste, et une activité un petit peu différente, donc de dégustation. Comment ça se passe tout ça?
En gros, nous, on est avant tout commerçants à Nevers. Hein. Mm-hmm. C'est notre vocation première. On est distributeurs, mais aussi on représente les vignerons avec qui on travaille. Donc ça, c'est tout un travail de sélection qui se fait en amont.
D'accord.
Et après, l'idée, c'est de faire partager notre sélection en fait à nos clients. Donc voilà, que ce soit sur la partie vente, donc pure, ou bien la partie atelier de dégustation qui se passe le jeudi soir, de 19h en gros à 22h, et sur les soirées privatives. Et ça, on met vraiment en avant, nous, ce qu'on sait faire de mieux. Vous recevez un client, vous l'accueillez, ça va de l'accueil jusqu'à la vente, et de la vente jusqu'à l'accompagnement de la marchandise dans la voiture des clients.
D'accord. Et donc, vous me parliez tout à l'heure de sélection des viticulteurs. Comment vous fonctionnez pour sélectionner justement les vins que vous allez proposer à vos clients ou proposer en dégustation? À quoi êtes-vous attaché en fait quand vous faites cette sélection?
Principalement aux valeurs du vigneron, comment lui travaille.
Oui.
Parce qu'il y a toujours, nous, on privilégie plutôt les petits volumes, donc à savoir plutôt la qualité. Mmh. Le deuxième aspect qui est aussi très important, c'est que votre sélection, il faut qu'elle vous ressemble un peu à vous, à ce que vous aimez, mais aussi à ce que les clients, donc aux attentes des clients qui vont goûter et déguster le vin. Quoi.
D'accord. Vous parliez de petits volumes, donc c'est plutôt une mise en avant des petits viticulteurs. On est loin en fait des grosses exploitations qu'on peut connaître dans certaines régions françaises et qui sont plutôt propriétés de fonds de pension et autres. Là, on a derrière chaque bouteille en fait.
On a un homme.
Un homme,
ouais,
c'est ça.
Le vin, c'est avant tout un terroir. Hein.
Oui.
Un terroir, un cépage qui est travaillé pour entrer dans l'appellation. Et après l'homme, le travail de l'homme, comment il va amener ses vignes pour donner un rendu jusqu'au vin qui va être le mieux possible, le plus qualitatif possible.
Oui.
Et c'est vrai que nous aujourd'hui on travaille beaucoup avec des vignerons qui sont sous allocation. Donc l'allocation en fait c'est un nombre de bouteilles qui vous est réservé à l'année.
Oui.
Et que vous avez le droit de prendre sur une fois par an. Donc des fois on peut avoir 6 bouteilles de, je dis n'importe quoi, mais de Nuit Saint-Georges par exemple de chez Gouges, mm-hmm. Et pas une de plus.
Donc
il faut aussi sélectionner derrière les clients et qui vont être réceptifs et puis qui vont vraiment aimer ça pour qu'ils s'y retrouvent vraiment quoi.
D'accord, donc deux petits volumes au niveau des viticulteurs, mais aussi donc des petites pépites à réserver à certains clients, si j'ai bien compris.
Exactement.
C'est ça. Au niveau de l'organisation de la Maison du Vin, vous avez des salariés, vous fonctionnez comment?
Aujourd'hui, moi, j'ai donc il y a moi qui fais pas mal de boulot, mais j'ai aussi Gildas Rabot qui travaille avec moi en collaboration depuis maintenant 3 ans.
Oui.
Et j'ai mon frère, donc qui vient en soutien avec un site web et qui va gérer tout ce qu'on appelle un peu le background, mais qui est aussi très important, qui est le côté administratif d'une boutique.
D'accord.
Parce que s'il n'y a pas d'administratif, il n'y a pas d'entreprise.
Sans rien. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup au niveau des chefs d'entreprise, mais c'est vrai que c'est important de le signaler. Chaque chef d'entreprise est passionné par son activité, mais néanmoins, il y a une partie administrative qui est non négligeable, quelle que soit l'entreprise, et il faut pouvoir l'amener à bien, sinon il n'y a plus d'entreprise.
Exactement, ouais. C'est une partie qui est non négligeable, comme vous le dites, et puis surtout qui est très importante dans le sens où on avance dans le bon sens.
Oui.
Si vous avez aujourd'hui une entreprise qui n'est pas organisée, soit vous reculez, soit vous stagnez, mais vous ne pouvez pas avancer.
Oui, ou vous fermez aussi des
fois. Vous pouvez fermer, ouais, exactement.
Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des démarches qui doivent être faites, et si elles ne sont pas faites, forcément, ça peut poser problème, y compris pour la continuité de l'entreprise.
Exactement.
Donc ça, c'est votre frère qui vous soulage sur cette partie.
C'est mon frère qui me soulage sur cette grosse partie, même si je suis toujours avec lui dans l'accompagnement. Oui. Voilà, parce que c'est aussi important de savoir ce qui se passe sur chaque étape de la vie de l'entreprise. Mais c'est effectivement lui qui gère le gros bloc, on va dire.
D'accord. Vous parliez de site web. Vous faites de la vente en ligne également ou vraiment uniquement de la vente en boutique?
Non, aujourd'hui, nous, on a un site web, donc on vend directement tous les vins que nous, on a en cave, vous pouvez les retrouver aussi sur le site. Et ça représente, on va dire, en gros, entre 8 et 15% de notre activité.
D'accord, donc principalement quand même en physique, mais une activité en ligne. C'est une activité en ligne qui se développe ou ce pourcentage est à peu près stable?
Ça s'est beaucoup développé, notamment pendant le Covid.
Oui.
Où les gens étaient beaucoup chez eux, donc du coup ils avaient peut-être un peu plus de temps pour regarder aussi leur passion, où est-ce que ça les amenait. Et aujourd'hui on est un peu en diminution, mais ça reste à peu près stable.
Ça reste à peu près stable, d'accord. Donc au niveau de l'équipe, on a vu, au niveau des clients, au niveau de la typologie de vos clients, on retrouve quelle catégorie?
Beaucoup de passionnés,
oui.
Beaucoup de personnes qui ont envie de faire, d'offrir des bonnes bouteilles.
Mm-hmm.
Ils savent que généralement c'est plutôt vers nous qui vont se tourner, parce que on va avoir vraiment l'offre qui va répondre à leur demande directement. Et après, je dirais, il y a des clients qui peuvent être soit de passage, donc j'ai des clients qui peuvent venir de Dijon, de Clermont, de un peu partout en France. Et qui en fait nous suivent parce que on a lié une sorte d'amitié ou tout simplement une sorte de relation client la maison du vin, on va dire ça comme ça, qui est importante et tous ces gens-là nous aident aussi à vivre au quotidien quoi.
D'accord. On a parlé tout à l'heure de votre frère, on a parlé donc de ce travail qui se fait en famille, mais finalement, c'est une histoire de famille depuis combien de temps, la maison du vin?
Ça remonte à très loin, parce que moi, je suis la 5e génération à reprendre l'affaire.
Quand même.
Voilà. donc, mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait Michel-Claude Chevrier, c'est 1880 à Decize.
D'accord, donc à Decize au départ.
À Decize, où ils livraient les gens en charrette avec des fûts en bois. Les gens avaient chez eux des fûts directement et en fait il y avait un système. On reprenait les fûts vides, et les gens payaient à chaque fois qu'ils avaient consommé.
Oui.
Voilà. Ils ne payaient pas avant, ils payaient vraiment à la fin. Quoi.
D'accord, donc c'était un autre fonctionnement, c'est un peu la consigne que l'on connaît, mais on ne payait qu'une fois qu'on avait consommé.
Exactement, alors d'accord. Que là vous payez plutôt en amont.
Il me semble, oui.
Exactement.
Faudrait qu'on voit, on peut peut-être s'organiser pour payer la bouteille une fois qu'elle est vide, mais...
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, je ne comprends pas pourquoi. On voit que les époques ont changé quand même. Nous allons marquer une pause musicale avant de nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la Maison du Vin. Vous aimeriez écouter quoi, Antoine Chevrier, sur cette première pause musicale?
Bah, moi, j'ai un petit groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Led Zeppelin.
Oui, petit groupe, oui.
Petit groupe, gros groupe, on va dire. Mais qui fait partie vraiment de mon histoire familiale, d'enfance, élevée. Enfin, c'est des morceaux qui m'ont été transmis par mon père.
Oui.
Le morceau que j'aimerais écouter, c'est Black Dog de Led Zeppelin.
Eh bien, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants.
Le rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
Les Classic Days, c'est les 29 et 30 avril sur le circuit de Nevers-Magny-Cours. Retrouvez des voitures anciennes accessibles à tous, la parade auto sur le village marchand, des invités exceptionnels et plein de surprises pour toute la famille. Infos et programmes complets sur classic-days.fr. Et tiens, bonne nouvelle, restez connectés ici, votre radio vous offre votre paire de billets à tout instant. Vendredi 26 mai, vivez la 7e édition de Courir à Nevers. Au programme, initiation en enfants gratuites et challenges scolaires, course chronométrée de 5, 10 et 20 km en participation libre ou via le challenge entreprise. Courir à Nevers, une organisation Le Journal du Centre, la ville de Nevers, la SF Usson et la Haute Nivernaise vous donnent rendez-vous le vendredi 26 mai au parc Roger Salengro. Toutes les infos et inscriptions sur www.courirannevers.fr.
Keep on.
les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes toujours avec Antoine Chevrier de la Maison du Vin pour les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous abordons cette seconde partie d'émission, Antoine, avec cette fois-ci plus le lien de votre activité et de l'actualité. Je me répète chaque semaine, mais depuis la période Covid, les crises ne cessent de se succéder. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer à nos auditeurs comment les différentes crises ont impacté ou pas votre activité. On parlait tout à l'heure de l'impact du Covid sur vos ventes en ligne.
Exactement.
Voilà. Comment ça s'est passé pour vous, cette période de confinement, de crise sanitaire ?
Bah alors, je dirais, moi, il y a eu deux choses principales. Au niveau du Covid... on a été impacté parce qu'il y a eu la fermeture des restaurants à qui on peut travailler, hein, qui est quand même pour nous aussi une source de vente. Mais par contre, il y a eu beaucoup plus de particuliers qui sont venus à la cave. C'est vrai que nous, on n'a jamais fermé. Oui. On a été considérés comme une entreprise de première nécessité.
Oui, donc là, je vais quand même redonner... une mention légale qui est que l'alcool est à consommer avec modération, mais vous étiez entreprise de première nécessité.
Donc oui, effectivement.
Donc ouverte.
Donc ouverte. Donc du premier jour où en fait on nous a dit de toute façon en tant que caviste vous n'aurez pas le droit à des aides ou minimes. Nous on devait quand même vivre. Avec les salaires qui étaient toujours présents, les choses comme ça. Donc on s'est, enfin moi je me suis posé aucune question. Clairement, et ouais. Je pense qu'une semaine après, on était en train de travailler avec beaucoup de livraisons, beaucoup plus, des gens qui se déplaçaient plus, donc forcément on allait les livrer avant et après les heures d'ouverture.
D'accord.
Un click and collect qui a un peu fonctionné. Nous, c'était pas ce qui nous a fait le plus marcher. Et après, quand ça a un peu rouvert, on a eu beaucoup, beaucoup plus de particuliers qui sont venus à la cave. Ce qui nous a permis aussi de fidéliser une nouvelle clientèle.
D'accord, donc finalement une opportunité cette crise Covid, parce que ça vous a amené à travailler différemment, mais aussi à avoir une nouvelle clientèle et à fidéliser de nouveaux clients que vous n'aviez pas avant.
Exactement. C'était une opportunité qui, j'irais, était ni mauvaise ni bonne.
Autant opérer un peu ce que je dis alors.
Exactement. Dans le sens où, quand même, la restauration aujourd'hui, pour nous, c'est quand même un gros poste. Donc, quand il y a quelque chose qui. Ça a permis de compenser complètement.
Ça a compensé, mais ça. Voilà. Et c'est venu en contrepartie de votre gros d'activité que vous n'aviez plus.
C'est ça.
Bon. Merci d'avoir rectifié.
Ouais, je vous en prie.
Ça, c'était pour la crise Covid. Depuis, on est en pleine crise énergétique, en pleine crise de l'inflation. Comment vous ressentez au niveau de votre activité, justement, l'inflation et la crise énergétique, l'impact qu'elles ont ?
Pour nous, effectivement, alors que à la base c'était pas forcément un gros poste l'énergie, parce qu'on fonctionne principalement avec des clims pour que le magasin soit tempéré constamment pour les vins. Mais effectivement, nous depuis le mois de janvier, on a quand même pris un x2 ou un x3 sur les notes d'énergie qu'on reçoit. Donc ça va se compenser à un moment donné, mais je sais pas trop comment encore. On nous parle de bouclier tarifaire.
Oui.
On nous parle de pas savoir quand on sera remboursé. Donc pour l'instant, on paye.
Oui.
On essaye de diviser les notes par deux ou par trois auprès de notre distributeur d'énergie. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis en termes d'inflation, ce qui a été compliqué, c'était pour les vignerons principalement, parce que c'est eux qui ont pris, on va dire, le plus. Ça ne sera pas que forcément notre métier,
oui.
Mais il y a eu à un moment donné même des pénuries de bouteilles vides.
Oui.
Donc pour eux, c'était
forcément.
C'est leur métier, donc c'était catastrophique parce qu'il fallait qu'ils retardent les mises en bouteille ou autre chose. tout ce qui était bouchon, papier, capsule, ça pareil, ça augmentait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans une logique où soit on n'a pas les vins au moment où on devrait les avoir, donc on les attend. Ce qui peut être compliqué pour nous parce que derrière, il y a des clients qui nous suivent et qui savent à quel moment sont plus ou moins les arrivées.
D'accord, donc ça décale, forcément.
Exactement. Mmh. Mais je dirais, nous, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui à gérer, c'est plutôt le côté environnemental avec le réchauffement climatique.
Oui, j'allais y venir justement.
Et en fait, là aujourd'hui, les vignerons, en 2019, 2020, 2021, ils ont fait une récolte pour 3 ans, au lieu d'en avoir 3.
Ce qui n'est pas neutre, ça.
Ce qui n'est pas neutre.
Oui.
Et pour nous, c'est, on se bat pour avoir des bouteilles tous les jours. Si vous ne passez pas le mail dans le bon moment, au final, au lieu d'avoir 30, vous n'avez plus que 18. Sur des maisons qui sont très prisées, c'est des bouteilles qui sont déjà, pour moi, quasiment vendues à l'avance. Hein. Mmh. Et en fait, on a même vu des domaines qui ont plus de disponibilité, type André Deza, aujourd'hui Firmin Deza sur Sancerre. Où avant j'étais nos limites, je l'ai vu me limiter, et ce qui est aussi un impact derrière pour moi sur tout ce qui est restauration et les personnes qui suivent ce domaine.
D'accord, donc on voit bien l'impact que cela a sur votre activité, puisque effectivement vous avez des périodes de pénurie ou des retards. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse s'attarder justement un petit peu sur ce changement climatique qui touche de plein fouet beaucoup d'activités, mais là, les vignerons. Vous disiez quelque chose de très fort tout à l'heure, une récolte pour 3 ans, au lieu d'une récolte chaque année. Qu'est-ce qui se passe dans nos terroirs, concrètement ?
Il se passe qu'au final, il y a un réchauffement climatique, ce qui fait que ça décale la saison. Mmh. Ce qui fait qu'au final, les vignerons qui taillaient leurs vignes au mois de novembre avaient des pousses qui étaient sur le mois de mars ou qui est en train de se faire, hein, des pousses donc de
la vigne qui repartait.
Exactement. Et en fait, derrière, il y avait des gels.
Oui.
Et les gels, à partir du moment où le vin, c'est, faut quand même pas oublier, c'est une récolte par an.
Oui.
Voilà.
Donc, il faut pas la rater, celle-là.
Faut pas la rater. Et surtout quand vous avez des jeunes pousses qui, au final, sont gelées. Vous avez les contre-bourgeons, mais ça vous ramène, je dirais, ça fait 70 à 80% moins de récolte par an. Mm-hmm. Donc 2021, je crois que c'était l'année la plus touchée. Hein. Mais il y avait déjà des problèmes sur 2019 et 2020. Et le souci, c'est que même les années où vous avez beaucoup de vins type 2018 ou 2022, où la qualité est très présente, voilà, on dit, l'appellation ne peut pas prendre le surplus. Donc les vignerons, en fait, laissent clairement pourrir leurs raisins sur les vignes.
D'accord, parce que l'appellation refuse de prendre de surplus les bonnes années.
Exactement, c'est-à-dire qu'au final, vous avez un quota limite à ne pas dépasser.
Oui.
Et une fois que ce quota est atteint, le reste, ça ne peut pas rentrer dans le millésime.
D'accord. Et ça ne compense pas donc les années où il y a moins.
Exactement.
D'accord. Comment les vignerons auprès desquels vous vous fournissez justement voient l'avenir par rapport aux exploitations qui sont sur notre territoire ? Comment ils envisagent les choses ?
Je dirais tout simplement les vignerons, en fait, ils ont appris à travailler différemment.
Oui, ils s'adaptent.
Ils s'adaptent. Aujourd'hui, ils ne vont plus commencer à faire des tailles au mois de novembre. Mmh. Quand vous avez un petit domaine, c'est possible. Quand vous avez un beaucoup plus gros domaine, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend beaucoup de temps pour tailler. Maintenant, aujourd'hui, sur des petits domaines, ils vont décaler leur taille sur décembre ou janvier, ce qui va permettre de décaler en fait le cycle de la vigne.
D'accord, on décale le cycle de la vigne. Et alors pour les plus gros exploitants qui eux ne peuvent pas décaler, comment ils arrivent à s'adapter?
C'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est-à-dire que De toute façon, je pense qu'il y aura forcément à terme une perte sur les années où il va y avoir un gel plus présent chez eux, c'est sûr, parce qu'ils pourront pas, sinon soit ils embauchent plus. Et aujourd'hui, embaucher dans les vignes, c'est un métier qui est très dur et c'est aussi compliqué. Ça aussi, on peut en parler, notamment pendant les vendanges. Hein, les vignerons trouvent plus grand monde.
Oui.
Et ils font souvent appel à des étrangers, type roumains ou autres, hein, qui viennent faire leur vendange. Et c'est un peu pareil au niveau de la taille, parce que c'est quand même un travail où il faut être très qualifié.
Oui, la taille, c'est encore différent.
La taille, ouais, bien sûr, il faut connaître, il faut respecter le cycle de la vigne. Donc, on taille soit en cordeau, enfin, là, il y a des principes à respecter. Et aujourd'hui, les plus gros exploitants, ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter, ouais, ça c'est clair.
D'accord. Donc, les gros exploitants auront du mal à s'adapter aux conditions climatiques, mais aussi à la recherche de main-d'œuvre.
Exactement.
D'accord. Comment vous expliquez qu'on n'ait plus du tout de main-d'œuvre dans nos vignes ?
Travail très dur.
Oui.
Une plus jeune génération qui accepte moins la difficulté du travail. Mm-hmm. Ça, je vais peut-être un peu me mettre des gens à dos, mais...
On est là pour dire les choses. Mais ça, c'est pas très grave. On se fait des amis de temps en temps, mais c'est pas très grave.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait aller sur des choses qui soient plus faciles. Mais le travail de la vigne, c'est un travail qui est minutieux, qui est dur, qui est physique et qui est intense. Donc,
et ça fait peur un peu.
Ça peut, je pense, ça peut en décourager quelques-uns, ouais.
D'accord. Donc les jobs étudiants qu'on pouvait connaître avec justement les vendanges et autres, aujourd'hui c'est plus très couru.
Il y en aura toujours un peu, mais il y en aura moins.
Oui.
Des gens qui seront intéressés pour aller faire justement les vendanges. Ouais.
D'accord. Donc ça veut dire que c'est l'automatisation derrière. Mais tout n'est pas possible.
Pas forcément, parce que si la machine ne fait pas le même travail que l'homme.
C'est ça.
Si vous voulez avoir aujourd'hui du raisin de qualité, il faut mieux avoir des hommes qui vont faire le travail, clairement, que la machine qui va passer et qui va, enfin, effectivement, couper les raisins, mais en abîmant la vigne au passage. Donc c'est pas le but.
On va clore cette seconde partie des rendez-vous de l'économie du territoire consacrée à la maison du vin sur ces mots. Je vais vous laisser, Antoine, choisir un deuxième morceau qui va accompagner cette pause musicale.
Moi, j'avais choisi Manu Chao.
Manu Chao.
Voilà, ça c'est pareil, ça me représente aussi plutôt pas mal parce que j'habitais, on en reviendra après, mais oui. En Espagne. Et après, celle que vous voulez écouter, ou la Malavida, ou ça c'est...
Eh bien la Malavida.
C'est parfait.
À tout à l'heure.
Les rendez-vous de l'économie du territoire, retour dans un instant.
Soleil. Because
les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour pour la dernière partie des rendez-vous de l'économie du territoire. Rendez-vous aujourd'hui avec Antoine Chevrier pour la Maison du Vin. Nous avons parlé de l'activité, nous avons parlé aussi des crises que nous connaissons et du réchauffement climatique. J'aimerais maintenant qu'on aborde quelque chose de plus personnel. Et vous avez commencé en choisissant le morceau que nous venons d'écouter, en nous expliquant que c'était une partie de votre vie en Espagne. Alors, on a vu tout à l'heure que c'est vraiment une entreprise familiale, c'est la cinquième génération, mais vous n'aviez pas le choix quand vous étiez tout petit, c'était Maison du Vin ou rien, ou vous avez eu quelques possibilités de faire autre chose, ou vous rêviez d'autre chose peut-être ?
Moi non, enfin clairement, c'est-à-dire qu'au final, l'école déjà c'était pas forcément trop mon truc.
Oui.
Et pourtant j'avais une mère qui était prof. Hein. Donc,
ah mais oui, mais ça se transmet pas forcément de génération en génération. Hein.
Non, c'est sûr, mais il y avait quand même la pression aussi sur les devoirs, les choses comme ça.
Oui. Mais c'était pas votre truc.
Moi, c'était, ça n'a jamais été trop mon truc, quoi, travailler à l'école.
Ouais. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit, Antoine?
Moi, je crois que j'ai toujours voulu être dans le milieu... Enfin, notamment de la boisson, hein, parce que je me rappelle à 12-13 ans, déjà, je commençais un peu à tourner avec les commerciaux de mon père.
D'accord, c'était plus sympa que d'aller en cours, ça.
Ouais, j'aimais bien ouais, ce côté, effectivement, ce milieu-là, quoi. C'était vraiment un milieu à part. Et effectivement, suivre les traces de mon père, je crois que c'était un peu ce que j'avais envie de faire. Je me suis plus intéressé, on va dire, après au vin. Mais au départ, j'étais plus censé reprendre l'affaire familiale qui était existante à Coulonges-Nevers, donc juste à côté, oui. Le vin Chevrier, où j'ai fait d'ailleurs des études pour ça, où il y a une licence professionnelle de distribution de boissons qui se trouve à Nancy, qui s'appelle Distec.
D'accord.
Qui a été ma formation principale avant d'atterrir dans le milieu. Et après, le vin, ça a été un peu comme une évidence. Bien même qu'avant la Maison du Vin existe.
D'accord.
Voilà, je travaillais à Paris et je m'occupais d'organiser tout ce qui était le rayon vin dans un bistrot cash. Comme ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, type métro ou voilà.
D'accord.
C'était mon premier boulot dans le milieu.
Dans le milieu, donc premier boulot à Paris. Et puis après, il se passe quoi ?
Après, il se passe après Paris, donc je finis mes études, une petite phase de creux, hein, ça peut voilà, où je savais pas trop m'orienter, je savais pas trop ce que j'allais faire.
D'accord.
Et ma mère me dit tiens, regarde, il y a un programme européen qui s'appelle, donc c'est un peu comme Erasmus, mais ça s'appelle Eurodyssée. C'est fait en Bourgogne. Et oui. En fait, vous avez un mois d'école, donc pour apprendre la langue, et cinq mois de stage.
D'accord.
Donc, moi, super, tu vas aller où ? Ben, Barcelone. Alors, ça, c'était le premier voyage aussi après le bac avec mon meilleur pote. Et on avait adoré tous les deux, et je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas ? Et après, grosse expérience de vie. Je pars sur ce stage-là. Ça se passe très, très bien. Mon patron me dit, je te dis pas adieu, je te dis au revoir. Donc, il me recontacte 4 mois plus tard. Et c'est parti pour Barcelone. Et 3 ans là-haut.
D'accord, 3 ans à Barcelone. Sur quelle activité particulièrement, alors ?
Et là, j'étais en manager de cave.
Manager de cave. Donc d'où en fait le parcours et puis l'arrivée ici sur des envies nouvelles finalement. Pas le métier initialement exercé par la famille, pas seulement.
Pas seulement, mais mon père entre-temps revend l'affaire familiale donc en 2005 et en 2010 recrée la Maison du Vin.
D'accord.
Voilà, donc et moi j'étais sur la fin de Barcelone.
Oui.
Faire Barcelone-Nevers, trop compliqué. Et y a un choc de culture, de dimension, qui peut pas s'opérer comme ça. Et j'avais ma copine qui était à l'époque, qui était à Strasbourg. Donc je décide de repartir là-haut. Et du coup, de m'intéresser beaucoup plus à la partie vigneron, où j'ai travaillé donc dans un domaine qui s'appelle Josmeyer, qui est pour moi l'un des top 5 ou 10 alsaciens.
D'accord. D'où en fait, aujourd'hui on comprend mieux comment vous choisissez vos vins, vos viticulteurs. C'est qu'en fait vous êtes passé vous-même par ce métier-là.
Exactement.
Et ça vous paraît, c'est important avant de vraiment vous lancer sur l'activité que vous avez aujourd'hui? Vous pensez que c'était indispensable, cette expérience?
C'est un plus. Pour moi, pour aujourd'hui, pour parler aux clients de vignes, de vignerons, de terroirs, c'est vraiment un plus parce qu'en fait, on emmène les clients avec nous au milieu du domaine et on les fait voyager. On les fait vivre aussi une expérience par rapport à ce qu'on peut dire. Et c'est vrai que les gens, quand ils sont chez eux, devant leur bouteille, il avait raison. Ou alors, moi, je pense plus ça de ce vin-là. Donc, c'est vrai que c'est forcément un plus de voir tous les aspects du milieu. C'est aussi ce qui m'a été transmis par mon père.
Oui, cette curiosité, cette envie de pouvoir partager aussi.
Exactement.
Et
c'est vrai que mon père, moi, m'a toujours dit, si tu fais quelque chose, fais-le à fond. Et tu verras, ça ira très bien. Quoi.
Donc la passion, en fait, qui guide en fait, au niveau du métier.
C'est ça.
C'est exactement ça. Comment vous équilibrez votre vie de famille et puis votre vie professionnelle? Il y a un équilibre à trouver ou ça se fait naturellement?
Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je viens d'être papa là, d'un petit qui a 8 mois et demi, qui va avoir 9 mois, qui s'appelle Léon. J'ai une femme qui est extraordinaire et très aussi conciliante sur ma vie professionnelle. Et ça m'aide énormément. Je la remercie chaque jour, peut-être pas suffisamment bien, mais j'essaie.
Faut profiter du passage à la radio pour le faire.
Exactement. mais du coup, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. C'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est passionnant. Et avoir moitié-moitié, c'est compliqué, mais j'essaie toujours de faire au mieux et d'être présent pour tout le monde.
D'accord. Moitié-moitié, c'est pas forcément comme ça l'équilibre finalement. Chacun a le sien.
C'est exactement.
Pas forcément moitié-moitié.
Non, c'est compliqué d'avoir moitié-moitié.
Oui, c'est ça, mais d'arriver à peut-être favoriser et faire des moments qui existent, des moments de qualité, plus que de quantité.
Il faut toujours avoir des moments de qualité, que ce soit même personnel ou professionnel. C'est important, en fait, d'être présent avec ceux qui on est, et que ce soit avec mes clients, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit avec mes amis. Mm-hmm. Toujours essayer de passer un moment un peu, déjà sympa, ça c'est sûr. Et puis d'emmener quelque chose d'un peu plus loin que ce qu'on pourrait avoir au quotidien, quoi.
D'accord. Et pour l'avenir, vous vous projetez comment? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire?
Pour le moment, je suis tellement dans le présent.
Oui.
Que c'est compliqué de me projeter à 10, 15 ans. Il y a des envies, il y a des projets.
Oui.
Là, on vient tout juste d'en monter un qui s'appelle donc l'espace MacLeod. Qui fait consonance un peu à l'Écosse, mais qui fait aussi consonance à mon fils, parce que voilà,
oui.
qui est le tout nouveau projet créé, imaginé donc par mon père, et que moi je mets en place et que on va faire vivre. Ça c'est plus mon rôle, on va dire.
Et alors cet espace c'est quoi?
En fait c'est un espace que vous pouvez privatiser. Le vendredi ou le samedi pour faire des réunions, pour faire des vos 50 ans, les 60, plein de choses comme ça. Mais c'est aussi un espace qui est aussi un lieu de vie, parce que à partir du jeudi de 15h jusqu'à samedi 19h, sur demande, vous pouvez venir goûter du whisky, du rhum que vous pouvez que vous ne pouvez pas retrouver partout.
D'accord.
Avec des choses de qualité, à des prix sympas. Donc ça, voilà. Et la troisième activité de cette salle, c'est dédiée aux entreprises.
Oui.
Pour qu'eux puissent emmener des fournisseurs, des clients, où on a un écran interactif. Et qui sert justement de, d'appui pour présenter des PowerPoint, mettre en place des réunions.
D'accord, donc on peut faire une réunion, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans un cadre un peu différent, et en alliant aussi la dégustation à la réunion ?
Exactement, qui se fait juste après.
D'accord, on est d'accord que la dégustation ne se fait qu'après.
Exactement.
Sinon, ça pourrait donner lieu à des réunions un petit peu...
Bancales.
Donc, ça, c'est ce nouveau projet. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas qu'il s'envole très bien, ce projet.
Merci.
Et on va se quitter en rappelant effectivement que l'alcool est à consommer avec modération et qu'on a bien compris que les dégustations se font après les réunions de travail et pas pendant. Merci Antoine d'avoir été notre invité de cette émission. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.